Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
On va parler de ce qui s'est passé lundi à Louisville. Le titre du Journal de Montréal est assez éloquent, là. Cette policière, Maureen Brault, a été victime d'une bombe à retardement. Celui qui l'a tué a été jugé non criminellement responsable 5 fois auparavant. Voie de fait. Menace de mort. La commission d'examen des troubles mentaux, dans une décision rendue il y a un an, disait « Il présente un risque important pour la société du public. » Sincèrement, comment c'est possible d'être jugé non criminellement responsable 5 fois? Maître Catherine Lapointe est avocate à l'aide juridique spécialisée justement dans les cas de santé mentale. Madame Lapointe, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi ça, là, s'il vous plaît, que j'essaie de comprendre comment ça se peut, à 5 reprises comme ça, être jugé non criminellement responsable, représenter un danger, puis quand même être libre, là.
Écoutez, je dois vous dire que c'est quand même assez rare en partant, là, que dans ma carrière, j'ai rarement vu ça, là, 5 fois, quelqu'un de déclaré non responsable criminellement. Alors, ça veut dire qu'au moment des infractions, il était en psychose et il y a un psychiatre qui a déterminé qu'il pouvait bénéficier de l'article 16 du Code criminel. Par la suite, c'est la commission d'examen pour troubles mentaux qui doit déterminer si l'accusé ou maintenant la personne est encore un risque important pour la société. Et grâce aux articles du Code criminel, on peut gérer ce risque-là dans la société. Ce que je ne sais pas, par contre, parce que moi aussi j'ai lu là-dessus, c'est complètement abominable, je ne sais pas si dans la décision du TAC, il y avait une délégation de pouvoir qui aurait pu permettre à l'hôpital d'hospitaliser monsieur contre son gré.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que quand quelqu'un est en libération avec des modalités du TAC, on peut gérer le risque qu'il représente en donnant le pouvoir à l'équipe traitante d'hospitaliser la personne contre son gré, sans passer par un juge. Vraiment l'hospitaliser parce que nous, on trouve qu'il est dangereux. C'est ça que je sais pas là, dans cette histoire-là. Comment ça se fait que ça n'a pas été fait?
OK. Mais c'est parce que quand on voit des cas comme ça, le public en général se dit, bon, Guy Turcotte voit ces histoires-là de non-criminellement responsables pour troubles mentaux. On peut penser à ce qui s'est passé à Laval aussi. Puis il y a encore cette impression-là dans la population que c'est facile, que les gens peuvent s'en tirer facilement.
C'est malheureusement une impression qui est totalement fausse. C'est pas facile de s'en tirer avec un verdict de non-responsabilité criminelle. Il faut vraiment que ça soit la santé mentale pure qui interagit avec l'intention au moment de l'infraction. Fait que c'est pas vrai que c'est facile. La chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que l'équipe traitante a pris tous les moyens nécessaires pour gérer le risque pour la société?
Oui. Pas clair est-ce là-dedans.
Non, c'est ça, c'est pas clair. Quel type de suivi il avait? Est-ce qu'il y avait un suivi intensif? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà contacté les policiers ou bien les services hospitaliers pour dire que leur voisin, le citoyen, était dangereux? Je sais pas les détails. Malheureusement.
Ouais, mais là, c'est parce que ce qu'on entend et ce qu'on voit aussi, c'est qui détermine ça? Est-ce que c'est l'Institut Philippe Pinel? Est-ce que ce sont les experts en psychiatrie? Est-ce que ça, vous sentez que c'est quand même un peu mieux balisé depuis le cas Turcotte? Est-ce que c'est plus clair l'expertise, comment on a le droit de l'utiliser, jusqu'où on peut l'utiliser? Parce que ça aussi, c'était un des points qui avait été soulevé à l'époque.
Là. Oui, mais faut pas oublier là, que l'affaire Guy Turcotte, c'était devant jury habituellement. Devant un juge seul, c'est le juge uniquement qui peut déterminer si cette défense est valable en droit. Mmh. Il y avait ça de différent. Mais aussi, ce sont des experts qui déterminent. C'est vraiment des psychiatres qui sont spécialisés en psychiatrie légale qui font cette évaluation-là, qui est très pointue. Alors, c'est plutôt rare qu'on puisse bénéficier d'une telle défense. Puis après ça, ce sont aussi des experts qui se penchent sur la dangerosité, le risque important de la personne au niveau de la société. C'est la commission d'examen pour troubles mentaux. Il y a 3 juges, il y a un avocat, un psychiatre et un travailleur social ou psychologue. Et ces gens-là se basent sur un rapport psychiatrique qui a été préparé par l'équipe traitante, qui, elle, doit évaluer le risque important de la personne. Parce que c'est ça le critère à évaluer, le risque important. Et évidemment, le juge, l'avocat, sais, et le travailleur social et le psychiatre qui forment le tribunal se basent sur ce qui lui est recommandé par l'équipe traitante.
Mmh. Puis ça, la non-responsabilité criminelle, c'est pas la même chose que la capacité d'avoir son procès, là, comme dans le cas de Laval où on a encore des évaluations, on pousse les évaluations plus loin pour savoir si cette personne-là, lors du procès, va avoir, je me remets entre guillemets, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais toute sa tête là, va être apte
en fait,
à suivre.
Oui. C'est deux choses totalement distinctes. Là. L'aptitude, c'est vraiment un critère de base. C'est vraiment très petit comme critère. Est-ce que la personne est capable de comprendre les procédures judiciaires? Est-elle capable de participer à son procès et de collaborer avec un avocat? C'est vraiment un critère qui évolue dans le temps. Tandis que la responsabilité criminelle, c'est vraiment au moment de l'infraction. C'était quoi l'intention? Y avait-il psychose au moment de l'infraction? Et si un individu n'avait jamais été hospitalisé ou jamais vu par le système de la santé, c'est sûr que pour un psychiatre, c'est beaucoup plus long à déterminer s'il était vraiment en psychose au moment des événements. Donc, j'imagine à Laval, c'est ça qui a été demandé. C'est une continuation du rapport pour bien faire les choses.
Et vous, ceux avec qui vous travaillez, là, qui ont cette défense-là, est-ce qu'ils ont de l'aide? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, une fois qu'ils retournent dans la société ou hospitalisés, ou à quel point ils sont bien encadrés par la suite, normalement? Là.
Normalement, je vous dirais que la plupart des cas sont très, très bien encadrés. On a beaucoup de success stories, comme on dit. Des gens qui se sont complètement réhabilités, qui ont complètement réinséré la société. Ils ont eu de l'aide de leur équipe traitante. Ils ont eu de l'aide des ressources communautaires autour d'eux. Ces gens-là se réhabilitent beaucoup mieux. Évidemment, quand la personne n'est pas volontaire, c'est sûr que c'est plus difficile pour l'équipe traitante. Faut pas se le cacher. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi cet individu-là était en liberté.
Puis est-ce qu'il y aurait moyen, comme équipe traitante, mettons que c'est pas dans les conditions dont on a parlé tantôt, de retourner devant le juge puis faire comme là, attention, là, oui, on a eu une liberté, mais peut-être qu'on devrait l'encadrer davantage parce qu'il y a des craintes. Ça, est-ce que c'est facile de faire ça pour l'équipe qui normalement l'encadre ou dit, hey, il veut pas être encadré, il prend de la drogue, c'est un danger, il faudrait l'incarcérer, là?
En fait, il y a non seulement l'incarcération, mais il y a aussi des ordonnances qui peuvent être émises par la Cour supérieure pour forcer l'individu à être traité, forcer l'individu à être hébergé. Il y a quand même des moyens à la disposition des équipes traitantes pour forcer le traitement ou l'hébergement de quelqu'un. Dans ce cas-là, je ne sais pas si ça a été utilisé.
Ouais. En tout cas, au moins, vous nous expliquez un peu comment ça fonctionne. Je pense que ça fait du bien de comprendre un peu mieux le système, parce que quand on voit des situations comme ça, c'est l'incompréhension totale, là, dont je pense qu'on se la partage tous au Québec, cette incompréhension-là.
Effectivement. Il va falloir avoir les détails.
Ben, c'est ça. Non, on a bien hâte de savoir ce qui va se passer dans cette enquête-là. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de rappeler nos condoléances à cette famille-là, à cette policière-là, puis à tous les collègues policiers aussi. Maître Catherine Lapointe, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes ces questions-là.
Merci à vous et bonne journée.
Au plaisir, au revoir.